Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité, quelle chose impensable, quelle chose inimaginable, quelle chose inexplicable pour l'esprit humain, quelle chose surprenante. Jésus-Christ est ressuscité. Cela nous interpelle. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment cela a-t-il pu se faire, cette résurrection? L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, nous dit que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair ou selon la nature humaine, les désirs humains, mais pour vivre selon l'esprit. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. Quelle chose magnifique! Quelle chose surprenante! Waouh! On peut se dire, il est en nous, il nous conduit, il nous conduit, nous sommes fils de Dieu, sa puissance est en nous. Cette même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, elle est en nous. Je ne sais pas si vous saisissez ce que cela veut dire. On peut dire en toute simplicité, je puis tout par celui qui me fortifie, n'est-ce pas? Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, ayant dit ça, je pourrais m'arrêter là et dire, vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Bon dimanche à tous et à bientôt si vous me réinvitez. Mais si je m'arrête là, peut-être qu'il n'y aura pas d'autres invitations. Alors, mais ce n'est pas pour cela que je vais continuer la prédication. Ce n'est pas pour cela que je vais continuer la prédication. Parce que ça peut sembler facile, ces quelques mots que je partage. Et effectivement, c'est simple et facile. Mais il y a quand même, à certains moments, des difficultés qui se présentent, des difficultés que Jésus a cherché à enseigner pendant son ministère. Et je vous invite, pour appuyer mon propos, à lire un miracle difficile. Ce miracle qui nous est relaté dans l'évangile de Marc, au chapitre 8 et au verset 22. La parole de Dieu nous dit, « Il, Jésus et ses disciples, se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « N'entre pas au village. » C'est pas si simple, une guérison. Il a fallu que Jésus s'y reprenne à deux fois pour guérir cet homme. Et cette histoire peut déranger. On peut se dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Jésus n'avait peut-être pas son 100% de puissance de power. Qu'est-ce qui se passe? Et puis jusqu'à maintenant, jusqu'à ce miracle, si vous prenez tout ce qui est auparavant, c'est parfait, à 100%. Aucun échec, aucun effort, j'allais dire. Jésus a parcouru la Galilée en faisant des choses incroyables. Et là, là, ça bute. J'imagine la tête des disciples. Le miracle précédent, c'était la multiplication des pains. Avec un petit bout de pain, 7 pains et quelques petits poissons, Jésus a nourri 4000 hommes, plus les femmes et les enfants. Et là, ça semble difficile. Alors, est-ce que c'est plus difficile de guérir un non-voyant que de multiplier des pains et des poissons pour 4000 hommes? Il y a quelques explications, diverses explications que j'ai pu lire dans des commentaires bibliques sur cette difficulté de Jésus à guérir, cette difficulté apparente de Jésus à guérir cet homme. Certains ont dit « l'aveugle manquait de foi, c'est évident ». C'est pour ça que Jésus a dû s'y reprendre à deux fois. Est-ce que quelque chose dans le texte nous dit que l'aveugle manquait de foi ? Non, absolument pas. Alors, gardons-nous ces pistes d'accusation qui simplifient, qui nous déchargent de toute responsabilité et qui font porter à celui qui n'est pas guéri son entière responsabilité. Souvenons-nous aussi de Job et de ses amis de Job. Souvenons-vous qu'à la fin de cette histoire de Job, c'est Dieu qui demande à Job d'offrir des sacrifices pour le pardon de ses amis. Donc ça n'est pas une bonne piste, cette histoire de manque de foi de l'aveugle. D'autres ont dit, cela illustre la manière avec laquelle le Saint-Esprit illumine l'âme de celui qui s'approche de Dieu. Le chemin de la sanctification est progressif, c'est un chemin par étapes. Alors c'est peut-être cela que cette histoire veut nous enseigner. Peut-être, mais je reste un peu sur ma faim quand même, ça me paraît un petit peu limite, si vous me permettez l'expression. D'autres ont encore dit, c'est vrai que cette difficulté nous semble difficile à expliquer, mais peut-être que Jésus a voulu expliquer qu'il faut persévérer en s'y reprenant à plusieurs fois. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne piste non plus. Lorsque Jésus a voulu inviter à la persévérance, il l'a dit clairement. Lorsqu'il a cité cette histoire de la pauvre veuve et de ce juge inique, et de cette persévérance de cette pauvre veuve, Jésus leur a dit cela pour leur dire qu'il faut persévérer et ne pas se relâcher dans la prière. Alors, je ne crois pas, lorsque Jésus est venu aussi trouver ses disciples dans le jardin de Gethsémané, il est venu les inviter à plusieurs reprises à persévérer, veiller et prier. Lorsque Jésus parle, en général c'est assez clair, je ne crois pas que Jésus ait eu besoin de ce miracle difficile pour inviter à la persévérance. Alors, pour nous aider à comprendre ce miracle difficile, j'aimerais faire une autre courte lecture, dans un autre évangile. À un moment de l'histoire qui est, au niveau chronologique, ce même moment où Jésus guérit cet aveugle de Bethsaïda. Et l'évangile de Luc nous raconte une histoire et des paroles de Jésus. Dans Luc 14, je cite ces paroles de Jésus pour nous aider à comprendre ce miracle difficile. Il nous est dit dans Luc 14, verset 25, « De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Un passage très clair, n'est-ce pas? Un passage très clair, ou encore plus compliqué à comprendre que le miracle difficile sur lequel nous sommes en train de plancher. Haïr son père, sa mère. Bizarre pour Jésus dont le cœur du message, c'est un message d'amour. D'aimer Dieu, d'aimer son prochain, d'aimer son ennemi. Bizarre pour Jésus qui à aucun moment n'a remis en cause la loi et les commandements, et le cinquième commandement qu'il rappellera quelques chapitres plus tard, ce commandement qui dit « honore ton père et ta mère ». C'est gênant, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas quelle Bible vous avez, quelle traduction vous avez, mais c'est gênant à tel point que dans certaines traductions, ils n'ont pas utilisé ce mot-là. Ils ont transformé, ils ont mis quiconque ne me préfère pas à son père, sa mère. Ça arrange les choses, n'est-ce pas? D'autres traductions ont mis quiconque ne renonce pas, voilà, sa famille, etc. Ça arrondit un petit peu les coins. Alors je suis allé voir dans le texte grec ce verbe haïr, traduit par haïr dans ma traduction. Et effectivement, c'est bien le verbe miséo. En grec, qui veut dire haïr, détester. Oups, donc on ne peut pas s'arranger. On ne peut pas transformer comme ça pourrait nous faire plaisir. Alors est-ce que Jésus se, se contredit en parlant ainsi? Est-ce qu'il était fatigué? Il a une petite parole, il n'a pas fait très attention? Vous le croyez, ça? Qu'une parole de Jésus était dite par inadvertance? Non, bien sûr que non. Alors vous savez, quand on ne comprend pas quelque chose dans la parole de Dieu, si je puis me permettre un petit conseil, c'est de regarder le contexte. C'est de regarder ce qu'il y a avant, de ce qu'il y a après. C'est toujours très important de regarder le contexte de paroles bibliques et de ne pas sortir une phrase, un verset de son contexte parce qu'on peut lui faire dire n'importe quoi. Et c'est très enrichissant de savoir le contexte dans lequel une parole de la Bible a été écrite. Je prends juste un exemple, le psaume 28, un psaume de David. Lorsque David dit « J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants », on peut se dire « Ce matin-là, David s'est réveillé, le ciel était bleu, les oiseaux chantaient, il a fait ce psaume magnifique, youpi !» Et puis quand on creuse le texte, quand on regarde le contexte, on se rend compte que dans cette situation, eh bien David, il est en train d'attendre avec son armée ce choc à Malianim, ce choc décisif qui doit l'opposer à son fils Absalom. Vous connaissez cette histoire de la révolte de son fils. Il est là en train d'attendre ce choc dramatique au niveau humain, au niveau de ses sentiments de père. Et il écrit ce texte, « J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants ». Non, c'est pas « Je me réveille, le ciel est bleu », mais c'est « Je suis dans le cœur de l'épreuve, mais je veux louer l'Éternel, quoi qu'il arrive ». C'est important le contexte. Alors, quel est le contexte de ce miracle difficile à comprendre? Quel est le contexte de ces paroles difficiles à interpréter? À quel moment Jésus parle de haïr sa famille? Eh bien, dans ces deux passages, le miracle et cette parole de Jésus, on est au même endroit, au même timing du déroulement du ministère de Jésus sur cette terre. Jésus est en train de finir ce temps de son ministère en Galilée et il va monter à Jérusalem. Il va monter à Jérusalem. Et vous savez pourquoi il monte à Jérusalem? On est à cette articulation-là. Et on peut lire la suite de ce que j'ai lu dans ce passage de Marc. Quelques versets plus tard, il nous est dit « Alors Jésus commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, et qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et lui dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu ». Tu n'as que des pensées humaines. Le contexte, c'est avant ces paroles de Jésus, avant ce miracle difficile, on est en Galilée. On est dans quelque chose qui roule. Ah, ça se déroule super bien, parfaitement, humainement parlant. Jusqu'ici, il y a eu des guérisons en pagaille, pardonnez-moi l'expression. Des aveugles ont été guéris, des lépreux ont été guéris, des démons ont été chassés, des possédés ont été libérés. Tout le monde a regardé ça, les disciples, la foule, ont regardé ça comme un spectacle magnifique. Il y a même des casse-croûtes géants où tout le monde peut manger, même ceux qui n'ont rien amené. C'est magnifique. Jusqu'à maintenant, Jésus, on te met 10 sur 10, 20 sur 20, la meilleure note possible, A++, etc., par rapport à ce qu'on attendait de toi. Jésus, c'est parfait, continue comme ça. On va monter à Jérusalem avec toi et ça va être la fiesta. Et puis, après ces temps, ce miracle et ces paroles de Jésus, c'est le début de l'enseignement de Jésus sur sa montée à Jérusalem, sur le chemin qui mène à la croix, sur sa mort. Et avec ça, les disciples ne sont pas d'accord, nous l'avons lu, cette réaction de Pierre. C'est la fin de leurs illusions terrestres. C'est la fin de leur rêve terrestre, c'est le début de leur prise de conscience que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, que le rêve des disciples et le rêve de la foule qui suivait, qui était que Jésus libère Israël de l'occupant romain, eh bien ça n'allait pas se réaliser, puisque Jésus parlait de mourir. Et c'est un point tournant dans l'enseignement de Jésus qui, à partir de ce moment-là, va inclure la croix. La grosse douche froide pour les disciples qui ne s'attendaient pas du tout à cela. Ces paroles de haïr sa famille, il y a une grande foule, imaginez la scène, cette grande foule qui suit Jésus, et là Jésus se retourne vers la foule. Et il dit, vous imaginez en étant enthousiaste venir avec moi à Jérusalem pour quelque chose de spectaculaire, pour voir un spectacle. Mais est-ce que vous imaginez, est-ce que vous comprenez ce que signifie, est-ce que vous savez ce que ça coûte de s'engager à ma suite, de me suivre? Est-ce que vous avez réalisé que je monte pour donner ma vie? Pierre n'avait pas réalisé, il n'était pas d'accord, il reprend Jésus. Alors, que faire face à cet enseignement de Jésus qui parle de mourir, qui parle de la croix? Que faire face à cet enseignement de Jésus? Nous pouvons aller voir dans l'évangile de Jean, au même moment chronologique, au même timing, où Jésus vient de parler de donner son corps comme une nourriture, de donner son sang comme un breuvage. Et il nous est dit dans ce chapitre de Jean 6, que, juste après avoir expliqué cela, au verset 66, il nous est dit « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » À partir de ce moment-là, où Jésus vient d'enseigner sur son corps qui est une nourriture, son sang un breuvage, plusieurs l'abandonnent. Plusieurs l'abandonnent. Et vous, voulez-vous aussi vous en aller? Et vous, voulez-vous aussi vous en aller? Jusqu'où va notre amour pour le Christ? Jusqu'où va notre amour pour le Christ? Vous savez, quand on aime quelqu'un, c'est pas parce que cette personne va dire ou faire quelque chose qu'on ne comprend pas qu'on va l'abandonner, n'est-ce pas? Mais si on ne l'aime pas vraiment, on va prendre ce quelque chose qu'on ne comprend pas pour dire « Ok, j'arrête ». On va prendre ce prétexte pour accuser et partir. Et c'est ce que font certains de ses disciples ici. Les autres, même s'ils ne comprennent pas, et qui pourrait leur jeter la pierre, n'est-ce pas? Même s'ils ne comprennent pas, eh bien ils restent parce que leur amour pour le Christ est plus fort que tout. Ils restent bien maladroitement, en reniant comme Pierre. Personne, hormis Jean, n'était au pied de la croix. Mais ça, c'est le constat de notre faiblesse. Mais ils restent parce que, à qui d'autre irions-nous qu'à toi, Jésus? À qui d'autre aller qu'à toi? Mais cette question ce matin, jusqu'où va notre amour pour Christ? Notre amour pour le Christ est-il suffisamment grand pour le suivre, quoi qu'il en coûte? Est-ce que nous voulons les miracles, le spectacle, l'ambiance? Est-ce que nous restons avec Jésus, même lorsqu'il s'agit de souffrir, de porter sa croix? Ou alors, est-ce qu'à ce moment-là, on s'arrête en disant « Je ne me suis pas vraiment engagé pour ça, je vais prendre un temps de réflexion ». Et puis je vais peut-être faire demi-tour, parce que c'est trop dur pour moi. Mais vous savez, dans toute la parole de Dieu, à aucun moment je n'ai vu Dieu appeler quelqu'un pour lui dire « Écoute, viens, je te garantis une vie sans problème, un salaire de ministre, des vacances, t'auras même pas besoin de les poser, tu les prends quand tu veux, une assurance contre toutes les contrariétés, aucun souci avec tes enfants, avec ta famille, etc., avec ton travail ». Ça oui, ça existe, ça s'appelle l'évangile de prospérité. C'est un faux évangile. C'est un faux évangile qui a tendance à frapper de manière insistante à la porte de nos églises, voire même à certains endroits, il y est. On peut trouver sur internet quantité de prédications trompeuses qui induisent dans l'erreur. Il y a quelque temps de cela, je me baladais sur internet. Je suis tombé sur un site qui était intitulé Christian Style Life. Ça sonne bien, n'est-ce pas? C'était en anglais, c'était un site francophone. Alors déjà, je me suis dit, mais pourquoi? Peut-être que Dieu comprend mieux l'anglais que le français, je sais pas. Enfin bon, j'ai pas d'explication. C'était Christian Style Life. Alors on arrivait sur ce site avec des images magnifiques. On était dans un appartement magnifique avec vue sur la mer, voyez. dans une sorte de loft aménagé par un architecte, je ne sais pas, qui devait être recommandé par les plus grands de ce monde, avec des fauteuils, des canapés moelleux où on pouvait s'installer. Voilà, c'était juste magnifique, quoi. Et puis il y avait plein de versets, de beaux versets, des belles promesses, que des promesses, mais centrées sur soi, centrées sur son petit bonheur, sur la réalisation de ses rêves personnels, ou la volonté de Dieu quelque part. On verra plus tard. L'essentiel, c'est que notre style de vie chrétien, on puisse s'épanouir, on puisse faire ce qu'on a envie de faire, voyez. Le style de vie chrétien. C'était juste une image du narcissisme, de certains enseignements, du fait qu'on peut vivre un certain temps en regardant simplement ce que Jésus nous apporte dans notre vie juste personnelle et individuelle. Le style de vie chrétien. Bibliquement parlant, le style de vie chrétien, je reprendrai une parole de l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée et qui lui dit: Timothée, sois un bon soldat, souffre avec moi. Timothée, sois un bon soldat, souffre avec moi. Le vrai style de vie chrétien, c'est mourir à soi-même, c'est prendre sa croix et suivre le Christ. Le style de vie chrétien, c'est « sois un bon soldat, souffre avec moi », non pas pour le plaisir, bien sûr, il n'y a jamais ça dans la Bible, de souffrir pour le plaisir. Mais le style de vie chrétien, c'est être esclave du Christ. Oula, j'ai dit un gros mot, esclave. Ça vous choque peut-être, hein, esclave. Ah, on n'aime pas être esclave. Moi, j'aime pas être esclave. C'est un mot avec une résonance qui est déplaisante, n'est-ce pas, esclave? Et c'est tellement déplaisant que dans nos Bibles, et j'ai pas trouvé une seule Bible où cette traduction était ainsi, dans nos Bibles on a remplacé le mot esclave par le mot serviteur. Tellement ça gêne. Vous connaissez le mot doulos? On connaît souvent ce mot doulos parce que c'est le nom d'un navire médicalisé qui parcourt un petit peu la planète pour aller dans des pays où il n'y a pas d'assistance médicale et qui va intervenir, un navire chrétien qui va intervenir au nom du Christ et qui s'appelle le doulos. Ce mot doulos signifie esclave. Mais vous savez que lorsque on prend la parole de Dieu, quand on prend les paroles de Jésus, à chaque fois que dans nos Bibles c'est traduit par serviteur, en fait c'est le mot doulos qui est dans le texte d'origine. C'est le mot esclave. Lorsque dans Matthieu 24, Jésus parle de ce serviteur fidèle et prudent, c'est cet esclave fidèle et prudent. Lorsque dans Matthieu 25, Jésus parle du jugement dernier, où il dit « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître », c'est le mot doulos. C'est « Bon et fidèle esclave, entre dans la joie de ton maître ». Lorsque dans Luc 19, Jésus raconte la parabole des mines et des talents et qu'il dit « Bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes », c'est « Bon et fidèle esclave ». Alors, la question que nous devons nous poser, c'est de qui voulons-nous être l'esclave? De nous-mêmes? De vivre selon la chair? De vivre comme ces disciples qui voulaient bien que Jésus réalise leurs rêves, mais au-delà, ça butait? Esclave de nos projets humains, de nos constructions matérielles, de tout ce qu'on peut amasser sur cette terre et qui ne sera que des ruines d'ici quelques années, ou amasser des trésors dans le ciel? Jésus nous rappelle qu'on ne peut servir deux maîtres. Et c'est ce qu'il rappelle à la foule: suivre Jésus, c'est être prêt à renoncer à tout le reste, à tout ce que vous avez de plus cher, à tout ce qui pourrait être avant Jésus, ce qui peut être notre vie propre. Et dans cette parole de Jésus, on a toute une succession d'adjectifs possessifs. D'adjectifs possessifs, c'est son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses choses à soi, sa petite maison, son confort, sa belle voiture, ces choses qu'on ne veut pas lâcher à Dieu, ces idoles matérielles ou familiales, tout ce qui prend tellement de place dans nos vies que cela devient un obstacle finalement à l'accomplissement du projet de Dieu pour vos vies. Bien sûr que Dieu ne veut pas qu'on abandonne nos familles, c'est évident. Mais il veut des hommes et des femmes debout, prêts au service, non pas en rejetant nos proches, mais en rejetant le symbole de toutes ces attaches naturelles qui nous empêchent la fidélité, le service, la consécration totale. Et l'engagement, la consécration, c'est pas réservé aux pasteurs, c'est pas réservé aux anciens, c'est réservé aux disciples, aux disciples. Et nous sommes tous appelés à être des disciples. Et c'est ce que Jésus demande à cette foule. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela coûte en termes de remise en question, de réorganisation de vie, de priorité? Êtes-vous sûr de vouloir le suivre au-delà des émotions qu'on peut vivre dans des grands rassemblements, dans des temps particuliers? Souvenons-nous du jour de notre baptême. Ou réfléchissez si vous n'êtes pas encore baptisé. Qu'est-ce que signifie le baptême? C'est simplement mourir à soi-même. Mourir à notre mauvaise nature, prétentieuse, égoïste, narcissique, tournée vers nous-mêmes, tournée vers le fait qu'on veut bien que Dieu réalise nos projets humains, mais qu'il y a tellement de mal à accepter la volonté de Dieu. C'est mourir à tout cela pour renaître avec le Christ et à la gloire de ses projets. Alors, avant de terminer, j'aimerais faire une remarque. Lorsqu'on prend conscience qu'on peut être à certains moments de nos vies à ce même tournant auquel étaient les disciples, ce tournant de l'enseignement de Christ, parce qu'on grandit spirituellement, qu'on prend conscience de certaines choses, alors on se dit, mais alors avant, c'était des miracles, des guérisons en quantité, et puis maintenant, c'est fini, il n'y a plus rien. Avant, c'était une sorte de publicité, oserais-je dire, un peu trompeuse. C'était pour aguicher, et puis maintenant, c'est fini, il n'y a plus rien. Les miracles sont finis, les dons sont finis. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Même si certains, dans certains courants évangéliques, vont dire cela. Il y a un certain courant évangélique qui parle de cessationnisme, n'est-ce pas? De cessationnisme. Les miracles, les dons spirituels, c'était pour un temps, maintenant, c'est fini. Mais je ne suis pas cessationniste, et à ce que je sache, l'église évangélique de réveil de Latcho n'est pas cessationniste, me semble-t-il, hein, rassurez-moi. Oui, ok. Voilà, et nous affirmons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que les miracles qu'il a fait, et que les miracles que les disciples ont fait, et qui nous sont relatés dans le livre des Actes, les miracles par l'action du Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il est toujours là, et que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que tout ce qui s'est passé, qui nous est raconté dans la Bible, dans les évangiles, dans le livre des Actes, c'est encore pour aujourd'hui. Amen. Alors, on dit tous Amen, mais force est de constater que des prodiges, des miracles, des guérisons, on en voit quand même beaucoup moins qu'avant. On en voit quand même beaucoup moins, bien sûr, que du temps de Jésus, des apôtres, moins qu'au temps du réveil, moins qu'au temps du réveil pentecôtiste, moins qu'au temps de ce réveil que j'ai pu vivre personnellement chez les gens du voyage, chez les Manouches, lorsque nous sommes partis de cette église, en fait, de Latcho, il y a quelques dizaines d'années. Nous sommes allés chez ce peuple manouche de vie et lumière qui vivait vraiment un réveil magnifique. Et j'ai pu voir de mes yeux des choses merveilleuses, des miracles impressionnants. La médecine qui était face à la résurrection, face à la résurrection. Je me souviens de ce bébé qui avait 8 mois et demi, et dont les médecins disaient « mais cet enfant est mort dans le ventre de la maman, donc il faut vite faire une opération pour sauver la maman ». Et ce moment où toute l'église se mobilise, et l'examen suivant, le bébé était vivant dans le ventre de la maman. Et ce bébé, c'est un pasteur tzigane de 30 et quelques années qui prêche l'évangile. Des choses comme cela. Mais c'est vrai qu'on doit avouer que, au jour d'aujourd'hui, ces miracles sont moins courants. Aujourd'hui, on raconte plutôt les miracles d'hier plutôt que ceux d'aujourd'hui. Alors on peut se demander pourquoi? Mais pourquoi? Jésus-Christ est le même. Le Saint-Esprit, c'est la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et qui habite en nous. Alors pourquoi? Et si l'explication, c'était simplement la même explication pour ce miracle difficile, si l'explication de ce miracle difficile, entre guillemets, si l'explication de ces paroles difficiles à entendre de Jésus et l'explication du fait que aujourd'hui, pourquoi il y a si peu de miracles, c'était la même explication. Et si c'était pour les mêmes raisons ? Cette invitation à la consécration totale qu'on a tellement de mal à accepter, quoi qu'il en coûte d'être disciple, quoi qu'il en coûte la difficulté à être un disciple consacré. Et si l'explication c'était que simplement par ces paroles difficiles à comprendre de Jésus, ce miracle qui nous semble un peu poussif, Jésus veut nous enseigner, nous faire grandir, nous ses disciples, nous faire comprendre qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer et il est vrai que, voilà, on dit « sola gratia », »,« seule ta grâce ». Et c'est évident que, là je ne parle pas de la bénédiction du salut, le salut est entièrement gratuit et on ne peut rien faire sinon que l'accepter. Ce salut, on est sauvé par grâce, mais le prix de la grâce est le chemin de la sanctification. Faire comprendre que la consécration, elle est indispensable. Qu'il n'est pas possible de voir la gloire de Dieu si nous ne sommes pas consacrés. Il n'est pas possible si on veut juste la bénédiction, mais pas en payer le prix. Si on veut les miracles, mais pas la croix. Parce que les miracles sont possibles grâce à la croix. Et c'est la question que Jésus pose à chacun d'entre nous ce matin. Jusqu'où es-tu prêt à aller avec Jésus ? Et si ce n'est pas jusqu'au bout ? Ce matin, l'invitation, elle résonne, change de position ce matin. Change de position parce que le style de vie du chrétien, c'est souffrir et vaincre. C'est la souffrance et la victoire. C'est pas souffrir sans victoire parce que si on n'est que dans la souffrance et qu'il n'y a pas de victoire, déjà c'est pas biblique et ensuite vous allez finir dépressif. Mais c'est pas l'inverse non plus. C'est pas vaincre sans souffrir. Parce que vaincre sans souffrir, ça c'est l'ambition humaine. C'est parfait pour finir avec un ego démesuré, en se glorifiant soi-même, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Vaincre sans souffrir, ça n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, le style de vie du chrétien, c'est souffrir et vaincre. Et si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Alors, en conclusion, Jésus-Christ est tout-puissant. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il a toujours cette même puissance de résurrection, de guérison, de bénédiction encore aujourd'hui. Mais l'appel du Christ est là ce matin. L'appel du Christ est là ce matin et il appelle et il respecte bien sûr la liberté de chacun. Parce que quand on aime, on ne force pas. Et Dieu ne vous forcera pas à accepter son amour, il frappe à la porte de votre cœur et il attend votre réponse. Dieu ne vous forcera pas à accepter son secours. Vous pouvez être dans les difficultés, constater que vous enlisez, être au plus profond de la difficulté et refuser la main tendue de Dieu. Dieu ne vous obligera pas à accepter cette consécration, le fait de tout mettre sur l'autel du sacrifice. Mais ce matin, le Christ vient encore à la rencontre de chacun pour une vie consacrée. Une vie non pas tiède, mais une vie bouillante pour le Sauveur. Une vie où vous verrez sa gloire se manifester par des signes, par des prodiges, par des miracles. Une vie qui sera le reflet de l'amour et de la puissance de votre Sauveur. Mais êtes-vous prêt à payer ce prix-là de la consécration ? Cet appel, il concerne chacun d'entre nous, ce matin. Quel que soit l'âge, on n'est pas trop jeune pour répondre à cet appel. Jérémie, le jeune prophète, Samuel, qui entend l'appel dans le temple très jeune. On n'est pas trop âgé pour répondre à cet appel de Dieu. Moïse, à 80 ans, 80 ans, est retourné délivrer le peuple d'Israël. Abraham, Sarah, trop âgés pour enfanter, mais qui ont enfanté le fils de la promesse. Qu'on soit homme, qu'on soit femme, c'est Marie-Madeleine qui a été chargée, la première, d'aller apporter ce message « Jésus-Christ est ressuscité, va et dis-leur » Dis-leur la victoire de l'amour sur la mort, va et dis-leur. Dieu appelle chacun ce matin. Et le problème, il n'est pas du côté de Dieu, mes amis. Le problème, il est du côté de chacun d'entre nous. Du chacun d'entre nous. Jusqu'où va votre amour pour Jésus ? Jusqu'où voulez-vous le suivre ? Jusqu'où va votre amour pour Jésus? Je vous invite à un temps de recueillement. Je vous invite à un moment où nous pouvons simplement courber notre front et repenser à ces paroles du Christ, repenser à l'attitude des disciples. Au pied de la croix de Jésus, il n'y avait pas grand monde. Tous avaient abandonné. Au pied de la croix du Christ, aucun de ces milliers de malades qui avaient été guéris n'était là. Et juste une simple admiration pour Jésus, ça ne suffit pas. Jésus appelle ce matin. Regarde à l'amour que tu as pour lui. Et pose-toi cette question. Est-ce que Jésus, c'est l'amour de ma vie? Est-ce que Jésus, c'est l'amour de ma vie? Est-ce que c'est celui qui est au-dessus de tout? Je vous invite à un court temps de silence pour que pendant ce temps vous puissiez répondre à cet appel de Jésus-Christ qui est là encore aujourd'hui pour se manifester au travers de ta vie, au travers de son peuple, au travers de son Église, avec des signes, des prodiges, des miracles, avec cette même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Réponds au Christ qui t'appelle ce matin. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, Jésus, je veux te suivre. Je pourrais simplement lancer un appel ce matin, si ces paroles de la Bible vous interpellent au plus profond de vous-même. Et si ce matin vous voulez répondre, oui Jésus, jusqu'au bout, je veux te suivre. Oui, Jésus, peut-être je me suis arrêté en chemin parce que ça devenait trop difficile. Il y avait certaines choses que je ne comprenais pas, mais ce matin, je veux me relever et je veux reprendre ce chemin avec toi. Ou peut-être, Jésus, j'ai oublié cet engagement du baptême, cette mort à soi-même. Le vieil homme a repris le dessus. Mais ce matin, je veux reprendre ce chemin avec toi, cette consécration. Peut-être que pour certains, ce matin, c'est un appel à l'engagement par les eaux du baptême. Vous réfléchissez, vous hésitez. Le prix de la consécration. Ce matin, Dieu vous appelle. Engage-toi ce matin. Passe par les eaux du baptême. Alors ce matin, si vous voulez répondre en toute simplicité, oui Jésus, jusqu'au bout, je veux te suivre. Eh bien, nous allons chanter ce chant, la voix du Seigneur m'appelle. Et je vous invite, si vous voulez répondre à cet appel, je vous invite à vous lever pour le chanter avec moi, en toute simplicité, en tête à tête, avec Jésus-Christ qui est là, qui vous appelle. La voix du Seigneur m'appelle.
Je suis.
Toi ce matin. Seigneur, nous avons entendu ton appel et tu vois ton peuple qui est debout pour répondre à ton appel. Et Seigneur, ta parole nous enseigne que tu honores toujours la foi. Seigneur, tu vois la foi qui est dans le cœur de chacun de mes bien-aimés ce matin. Seigneur, tu vois ce pas de foi qu'ils ont fait en se levant pour répondre à ton appel. Et Seigneur, je te prie par la puissance de ton Saint-Esprit en ce moment vraiment de visiter chacun. Je te prie de visiter chacun, je te prie de bénir chacun, je te prie d'agir là où il y a des besoins de guérison, là où il y a des besoins de réconfort, je te prie de relever Seigneur, je te prie d'encourager. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, Saint-Esprit, tu es celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et tu es présent aujourd'hui parce que tu es le Consolateur, tu es l'Esprit de vérité, tu es celui qui nous conduit, tu es celui qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Seigneur, ta puissance n'a aucunement faibli par rapport à il y a 2000 ans. Alors Seigneur, que ta puissance, cette puissance du Saint-Esprit qui n'est pas limitée, puisse se manifester Seigneur, en réponse à ce geste de foi Seigneur de chacun de mes bien-aimés ce soir, cet après-midi, ce matin Seigneur, cette journée. Gloire à ton nom précieux Jésus, parce que tu es vivant, parce que tu es ressuscité, parce que tu agis. Et Seigneur, tu vas te manifester par des signes, des prodiges et des miracles, encore aujourd'hui et dans les temps qui viennent Seigneur. Alors à toi soit la gloire Jésus, au siècle des siècles et pour l'éternité. Amen.